et éventuellement à travers un peu d'horizon. Hein, et j'arrive à avoir une paix armée avec un prof de maths à qui je dis n'enlevez pas de points pour l'orthographe de mon gamin, tout simplement parce que vous ne lui apportez rien en orthographe.
Bien sûr.
Et puis j'avais testé ça avec les maths et comme j'ai vu que ça marchait bien, je l'ai fait avec l'histoire géo, ça marche aussi. Hein. Donc les profs de français, il faut trouver un équilibre parce qu'ils ont quand même un rôle. Mais tous les autres qui n'apportent rien dans ce domaine-là, si on peut déjà arriver à ce qu'il n'y ait pas une sur-sanction, parce que pourquoi pas enlever deux points en sport aussi, hein, pour le français ou en musique, hein, musique, je suis sûr qu'il y en a, qu'on le fait, hein, et on libérerait déjà beaucoup de jeunes hein, de ce contrainte. Et quand on arrive à ce qu'un certain nombre d'enseignants relâchent prise par rapport à ça, on a déjà sacrément fragilisé le monolithe.
Oui.
Voilà, je risque de parler plus, mais bon.
Ah, merci beaucoup pour ce témoignage. Ce qui m'inquiète, c'est que les nouveaux programmes parlent quand même de la maîtrise de la langue qui doit traverser toutes les disciplines, être l'objectif dans toutes les disciplines.
Je crois que ça avait été, ils avaient enlevé ils comptaient plus les fautes de français dans un exercice de mathématiques. Moi, je pense.
Ah oui, peut-être. Hein, oui.
Il y avait eu ce genre de truc il y a 10 ans au collège, il me semble que le français n'intervenait pas sur l'exercice.
Il faut se méfier aussi de ce qu'on appelle dyslexie. Hein. Selon les outils d'évaluation, le nombre de dyslexies est double. Hein. Les enfants qui sont dès la grande section maternelle et en CP catégorisés de dyslexiques. Non, juste ils ont besoin d'un peu plus de temps pour comprendre les correspondances graphophonologiques et comprendre la complexité de notre système. Mais oui, oui, en Espagne et en Italie, il n'y a quasiment pas de questions de dyslexie.
Ah, si, pardon. Si, il y a parce que la dyslexie est un trouble de mémoire, sauf que ça ne s'exprime pas par des dysorthographies.
Voilà.
Et donc,
il y a plusieurs formes hein, de dyslexie.
Mais du coup, c'est vachement plus pernicieux, parce qu'ici, c'est très stigmatisant, donc on le voit très tôt, donc on intervient et effectivement on peut accompagner. Oui. Là-bas, on traverse plus longtemps, on survit plus longtemps, mais à un certain moment, on n'a pas fait travailler ces fonctions mémoire, et quand ça tombe, là c'est rédhibitoire, et en plus, comme c'est moins généralisé, il n'y a pas de cadre légal, et là c'est dramatique. Voilà. Mais donc, c'est pas plus vert à côté.
Les questions de dyslexie, phonologie, enfin, moi, je sais pas, je vois tellement d'enfants qui, dès le CP, sont orientés chez des orthophonistes qui ont, elles, une conception très monolithique de la langue. Elles utilisent encore les tests de Romsey hein, qui se vendent. Et enfin, faut les voir, ces tests. C'est vraiment intéressant de voir quelle conception de la langue on a avec ça, quoi. Comprendre, c'est comprendre des mots isolés. Les phrases, il faut que tu les termines, mais c'est moi qui te dis le début de la phrase. Enfin, c'est où la créativité aussi? Quelle est la créativité de la personne et sa façon, elle, qu'elle aurait de s'exprimer?
La dyslexie, c'est 80% du chiffre d'affaires des orthophonistes.
Oui. À peu près de chez moi, une nouvelle boîte s'est ouverte avec des livres sur les mots cognition, hein, dyslexie, neuro quelque chose. Je vois bien, moi je travaille dans un laboratoire expérimental. Ça faut... Les outils qu'ils utilisent ne sont pas mes outils parce qu'on n'a pas la même conception de la langue au départ. Quand tu fais passer le test de l'alouette pour savoir si l'enfant a des difficultés en lecture, moi le test de l'alouette qui est un test de non-mots, enfin de non-compréhension, pour moi lire c'est comprendre et créer du sens. Donc ça, c'est pas avec ça que je peux pour moi évaluer les capacités de lecture d'une personne. Et puis surtout, je refuse la norme. Hein. Le collectif Malgré tout, Angélique Delray, a fait pas mal d'articles intéressants sur cette norme qu'on nous impose. Elle est prof de philo, elle. Et un enfant, certains tests de mes collègues, à tel âge, tu dois lire à telle vitesse. Quoi. Et les standards, les normes, hein, c'est, tout ça, c'est extrêmement normatif.
Peut-être développer le test de
l'alouette. Ouais, ben, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien utiliser mon ordi, parce que je l'ai sur l'ordi. C'est un texte qui est une histoire, mais qui. C'est des mots, mais qui ne font pas une histoire. Parce que l'objectif des chercheurs, c'est d'enlever la question du sens, pour pas que l'élève anticipe. Hein? Alors que lire, c'est anticiper du sens. Enfin bon, on connaît ça, nous, avec nos exercices sur les mots grignotés. Et, bon. Et puis, alors, mes collègues, je leur dis, oui, mais l'élève là qui a passé le test, est-ce qu'il grandit avec le français seulement? Il me dit, je leur demande de me dire si leur langue maternelle c'est le français. Ils me disent, bah oui, bien sûr, l'élève, il sait, il a compris qu'il vaut mieux dire ça déjà. Mais est-ce que tu leur demandes s'ils parlent une autre langue ou s'ils comprennent juste comprendre? Ça veut dire, est-ce qu'ils sont en contact avec d'autres langues? Est-ce qu'ils voient écrit dans un sens différent du français? Non, on ne pose pas ça comme question. Pour nous, c'est des recherches qui évacuent la complexité des contextes de développement de la personne. C'est plus facile, hein, ça fait des recherches plus simples hein, quand même, quand vous évacuez tous ces paramètres qu'il faut essayer de saisir pour... Donc, effectivement, il y a un conflit aussi, des recherches qui sont dissonantes, quoi, hein, qui sont pas du tout convergentes, hein, c'est pas un monde où on est tous d'accord du tout. Puis il y a quand même pas mal de gens qui viennent des dominants chez les chercheurs. Hein. Alors, j'ai pas soulevé de foudre, c'est bien de venir à Sud CNT.
En fait, c'est réconfortant un peu. Moi, je me suis intéressée un peu à l'oral, parce que quand j'étais enseignante à l'Alliance française, j'avais l'impression que l'approche de l'oral était extrêmement limitée, notamment la phonétique qui venait toujours à la fin. Alors que suite à une formation avec une phonéticienne qui était très intéressante, elle nous avait sensibilisé à l'aspect mélodique, de partir de l'intonation, de partir du son.
Oui, le verbe tonal.
De partir de l'intonation, et j'ai un peu creusé le truc. Mm. Et c'est vrai que maintenant, je n'aborde pas du tout la phonétique de la même manière, et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses au niveau de l'oral aussi, le côté complètement artificiel des jeux de rôle.
Et des supports voilà, d'enseignement.
Et comme en plus, je me suis intéressée au théâtre, avec des apprenants-feu, j'ai monté deux pièces de théâtre. J'ai essayé de faire le lien entre cette interrogation sur l'oral, sur la phonétique, sur des supports qu'on pourrait créer dans un cours de théâtre qui pourrait être utile pour l'oral aussi, oui, et pour la créativité. Mais c'est un début, je ne sais pas. C'est un peu un appel aussi parce que je cherche un peu à développer ce travail-là et je ne sais pas trop comment. Je me sens très seule.
Ah oui, il y a les travaux de Joëlle Aden, qui elle est didacticienne de l'anglais au départ. Moi j'ai beaucoup travaillé avec elle, parce que le théâtre, ayant travaillé 10 ans à Avignon, on n'échappe pas au théâtre quand on vit à Avignon, et c'est tant mieux. Donc nous on a beaucoup travaillé le théâtre avec des élèves nouvellement arrivés au collège, et j'aimerais bien lire ce que vous avez fait avec vos élèves. Une de mes anciennes étudiantes qui est formatrice, Fleu au Greta, dans le Vaucluse, a aussi beaucoup travaillé le théâtre, mais bon, elle n'a pas publié. Donc il y a les travaux de Joëlle Aden, parce que c'est intéressant d'aller voir des enseignants aussi d'une autre langue. Moi, j'étais dans le jury de thèse, une thèse dirigée par Joëlle Aden, de Karima Lebdjeri-Wari. Donc les thèses, elles sont en ligne. Elle a plein d'idées géniales dans l'enseignement de l'anglais à Bobigny, dans un collège difficile. Plein d'idées, de supports. Et puis chez Retz, il y a des scénettes qui sont très drôles, mais je ne sais pas si j'ai le titre ici. C'est des petites scénettes pour jouer Karima Wari Lebdiri. Sinon, j'enverrai par mail ces références-là, ouais. Il y a aussi Kormanski qui, chez Didier, a publié un petit travail, des quelques idées pour utiliser le théâtre en FLE.
Il y a un petit bouquin rouge aussi, les jeux dans le théâtre. Et c'est intéressant aussi de stimuler la créativité d'apprendre et vraiment d'avoir un objectif artistique aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Ouais. Ça devient un peu une caricature du théâtre aussi, alors que.
Super important. Moi, j'ai beaucoup écrit là-dessus parce que travailler avec des professionnels en classe, bon, bien sûr, il faut aller démarcher pour avoir un peu d'argent pour payer les professionnels, mais on a toujours réussi. Et voilà, et c'est ce que Noël de Smet dit, j'introduis les apprentissages, ce qui peut faire conscience fière. Les élèves, ensuite, ils sont fiers d'eux parce qu'ils ont travaillé.
Là aussi, le fait de se représenter, d'être dans un théâtre,
ça, oui. L'association Approche Culture et Territoire a mis le DVD, le film qu'on avait fait, alors qui est plus centré sur comment le comédien Damien Rémy du théâtre du Chêne Noir à Avignon avait travaillé avec nous dans cette classe d'accueil. Mais le film avant était sur franc-parler, puis quand franc-parler était piraté, c'était trop compliqué. Bref, Acte, sur le site de Acte, il faut un peu chercher. Là, j'ai, mais il y est toujours, qui montre bien. C'est, ça s'appelle le théâtre théâtre en classe d'accueil. Et c'est donc le projet que l'on avait conduit avec Fabienne Léridon de la Rosa, prof de français au collège Romani à cette époque à Marseille. Et cette classe, voilà. Et puis je pourrais vous envoyer des textes, enfin voilà, mais qui confortent votre opinion tout à fait. C'est-à-dire avoir une exigence artistique. Et d'ailleurs, Damien Rémy le dit bien aux élèves, vous croyez que quoi ? Parce que le français n'est pas votre langue maternelle, que j'allais pas être exigeant avec vous, mais vous avez les capacités. Puis après, ils ont joué au théâtre du Chêne Noir. Et l'année suivante, avec l'écriture de la pièce Immigration, qu'on a travaillé avec une autre comédienne qui s'appelle Véronique Blé, qui fait des formations aussi, d'ailleurs aussi des formations d'enseignants. Moi, je la faisais intervenir dans le master FLE d'Aix, d'Avignon, quand j'étais prof à Avignon, et mes étudiants me disaient « Madame, mais on en veut plus, quoi !» Enfin, ce qui se disait que c'était essentiel d'avoir une formation avec un comédien dans notre métier. Et on avait donc écrit et mis en scène la pièce « Immigration ». Et là, on a fait les choses mieux, parce qu'au Théâtre du Chêne Noir, on n'a pas suffisamment annoncé à la société qu'il y avait cette représentation. Et là, c'est le théâtre de l'Étincelle à Avignon qui nous a accueillis. On a fait salle pleine. Et après, on a pris un temps avec, comme on va faire là tout à l'heure, boire un coup, et avec le public qui nous a dit, mais on ne savait même pas que ces enfants existaient. Oh, quand j'en reparle aujourd'hui, c'est... Et ça, pour nous, c'était aller jusqu'au bout. Voilà. Il fallait socialiser ça et il fallait créer des échanges. Sinon, ils vivent dans leur ghetto, hein. Qu'ils disent affectueusement leur ghetto, mais leur quartier. Et là, il fallait créer du lien, tisser, quoi. Tisser.
Moi, j'aurais une question qui sortirait du million enseignant, c'est dans une situation d'acquisition de banques d'étrangers. Je l'ai vécu débarquant dans un bureau à la préfecture, ne parlant pas ou ayant un usage... limité du français. Quels sont les moyens de résister? Là, j'ai une foultitude d'exemples à citer, je le préfère. Quels sont les moyens de résister à l'autophobie là, quand on est déjà en situation d'infériorité? On vient...
Non, là, c'est pas, non, vous avez raison. C'est pas celui qui est en position d'être minoritarisé qui y arrive. Je parle de nous, acteurs, l'autopoétique, pour les accompagner. Oui. Vous les accompagnez. Vous accompagnez ces personnes pour réussir cette épreuve. Oui. Nous, de notre côté...
Se faisant jeter par des préfectures qui hurlent...
Qui n'est pas formée...
Pas formé, dites, mais ils sont pas sourds, madame, simplement ils n'entendent pas le français. Ah ouais, mais ils comprennent rien, et puis voilà.
Oui. Alors nous, de notre côté.
Et ce sont des gens qui sont en situation d'infériorité.
Non, mais là, c'est ce que je dis.
Ils viennent demander quelque chose qui est hyper important dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas.
D'ailleurs, on ne maîtrise jamais une langue, hein. C'est pas un animal sauvage qu'on maîtrisera dans notre vie. Que faire ? Non, c'est ce que je disais sur le court terme, il faut les aider à passer ces épreuves qui sont glottophobes. Il faut les passer, il faut qu'ils y arrivent. Mais il ne faut pas renoncer à vouloir changer les choses. Alors, nous, on ne peut pas tous, mais Philippe Blanchet, par exemple, fait des formations d'agents qui s'occupent des demandeurs d'asile, à la préfecture, au département, enfin, vous voyez, on essaie aussi d'être des chercheurs qui allons rencontrer à la PJJ aussi, il intervient, enfin, on essaie d'intervenir et Thierry Bilot le faisait beaucoup aussi. On ne reste pas que dans le monde de l'éducation parce que les sphères de glottophobie sont vastes.
Ah oui,
c'est terrible. Même depuis qu'il a publié ce livre, il a reçu des témoignages d'une infirmière, je crois qu'elle est urgentiste, qui a repris des études et qui fait un mémoire qui porte sur les discriminations aux soins, à l'accès aux soins. Elle en a été témoin dans l'hôpital où elle travaille. Personne qui, parce qu'elle parle mal français...
Ouais, et justement, c'est un truc qui m'a choquée, mal, hein. Moi, avec ma mère, qui ne parle pas français... Quand elle va chez l'ophtalmo,
ah oui.
C'est Mais c'est horrible.
Ils sont méprisants.
Au pire, mais vraiment, j'en ai vu une sur toutes les nanas, enfin tous les filles qu'elle a vues, qui était chouette. Mais alors, du mépris, mais comment vous ne comprenez pas?
Mais ils le sont déjà avec nous.
C'est très compliqué, en fait, de faire usage de choses technologiques, là, s'approcher, les yeux levés, menton, machin. Là, je veux dire, la loupe, le truc. Ah,
et après, il faut la connaître.
Hein?
Je suis d'accord, j'ai vu la même chose.
Ça, c'est horrible.
Il y avait des personnes.